Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une joie d'être à nouveau avec vous pour partager la parole de Dieu. Et il m'est apparu ces jours derniers, en cherchant ce que je devais vous dire, qu'une réalité primait toutes les autres. C'est une réalité indispensable. Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Elle est nécessaire à chacun de vous. Aucun être au monde ne peut s'en passer. Le bébé en a besoin. Le vieillard aussi. Le jeune homme comme la jeune fille. Le mari comme l'épouse. Tous, sans exception, ont besoin d'amour. Allez le demander à celui qui n'a jamais de visite lorsqu'il est couché sur son lit d'hôpital. Allez le demander au prisonnier qui n'est jamais appelé au parloir. Allez le demander même au bébé qu'on ne prend jamais dans les bras. Mais demandez-le aussi à votre propre cœur lorsque vous êtes seul. Et lorsque cette solitude vous pèse, lorsque l'épreuve est là et que personne ne peut la subir à votre place, lorsque l'incompréhension de vos proches ou de vos amis vous ronge comme un cancer. Et puis, regardez votre voisin, ici, là, assis à côté de vous, votre voisin, votre voisine. Vous le voyez bien, sans même tourner la tête. Vous sentez qu'il est là. Vous savez peut-être son nom. Eh bien, il a besoin d'être aimé, comme vous, comme chacun de vous. Et ce serait beau si chaque dimanche, en vous asseyant à votre place, vous pouviez réaliser que celui qui est assis à côté de vous a besoin d'être aimé. Et actuellement, votre prochain, c'est celui qui est assis à côté de vous. Il a besoin d'être aimé. Et comment serait-il autrement? La Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous dit aussi que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. Bien sûr, vous me direz, mais cette image de Dieu a été considérablement déformée par le péché. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'il en reste quelque chose. Et nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. C'est dans la conformité à ces grandes réalités de l'amour que vous trouverez votre joie, votre équilibre, votre paix. Un éducateur me disait il y a 2 jours qu'il y avait contradiction entre les tendances de la psychologie moderne et les exigences de l'Évangile. Il me disait, après tout, on nous rabat les oreilles, on nous dit sans arrêt qu'il faut que les individus soient valorisés, qu'ils arrivent à réaliser qu'ils ont de la valeur, ceci afin de leur permettre de s'épanouir. Et l'Évangile, par ailleurs, nous dit que les hommes doivent s'humilier, reconnaître qu'ils sont misérables. Alors il semble qu'il y ait une contradiction. Cependant, nous croyons qu'il est important que l'individu reconnaisse sa valeur propre, bien qu'il la tienne de Dieu. Le psalmiste ne disait-il pas « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Est-ce que vous vous êtes dit une fois que vous êtes merveilleux? Mais la Bible le dit. Vous êtes des créatures merveilleuses, absolument fantastiques. Et aucun de vous ne sera jamais ce qu'un autre a été. Vous êtes unique dans l'histoire du monde. Et il faut que l'individu reconnaisse sa valeur propre s'il ne veut pas sombrer dans le désespoir. Mais en même temps, nous croyons qu'il est important que l'individu s'humilie pour ne pas persévérer dans l'orgueil et la suffisance qui le conduiraient à la perdition. Et l'Évangile me semble être la bonne réponse aux besoins du cœur humain. Car l'Évangile révèle l'amour de Dieu. Il montre à l'individu qu'il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ne sommes-nous pas ces créatures, chacun de nous, individuellement? Je suis une créature de Dieu, et c'est pour moi personnellement que Jésus-Christ est mort. Pour chacun de vous personnellement, Jésus-Christ est mort. Quelle merveille! Je suis aimé de Dieu. Dieu s'intéresse à moi. Et Dieu s'intéresse à chacun de vous en particulier. Est-ce que vous connaissez, mes amis, une réalité plus encourageante, plus dynamique que celle-là pour valoriser un individu? Être aimé de Dieu. Enfant, petit enfant, mais aimé de Dieu. Handicapé peut-être, mais aimé de Dieu. Malade peut-être, mais aimé de Dieu. Incompris des hommes, mais aimé de Dieu. Le Tout-Puissant s'intéresse à chacun de vous personnellement. Vous êtes aimé de Dieu. Je pense ici à l'histoire de cette femme qui un jour s'était introduite dans la maison où Jésus était en train de manger et elle avait couvert de larmes et de parfums les pieds de Jésus. Cette pécheresse, cette femme de mauvaise vie, quelle valeur n'avait-elle pas aux yeux du Seigneur? Quelle valeur! Et le Seigneur de lui dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. La paix pour la prostituée. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de l'amour de Dieu. Je pense aussi à l'histoire de ce jeune homme dont le père était ivrogne, et qui un soir, entrant chez lui, voit son père une fois de plus, complètement saoul, prêt à battre sa propre mère. Et ce jeune homme avait la force suffisante pour jeter hors de sa maison cet homme à moitié fou. Mais il n'a pas pu le faire. Il a pris son père aux épaules, il a regardé dans les yeux, il lui a dit, « Papa, Dieu t'aime. Et c'est ce jour-là que son père est devenu chrétien. Bouleversé par cette révélation de l'amour de Dieu. Oui, nous pouvons dire à l'ivrogne, comme à la prostituée, que Dieu les aime. Nous pouvons le dire aussi aux malades et aux handicapés. Dieu les aime. Mais en même temps, cet amour de Dieu nous révèle notre situation catastrophique, les passions qui nous lient, la culpabilité qui nous écrase, le péché qui nous souille, et notre incapacité à vivre seule une vie équilibrée, pure. L'amour que Dieu nous porte est un amour qui éclaire, qui nous montre qui nous sommes en réalité. Et semblable à Saul de Tarse, nous avons un jour à tomber à genoux devant Dieu, à nous humilier devant celui que nous avons persécuté. Vous connaissez cette histoire, Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, qui un jour sur le chemin de Damas est obligé de se jeter à genoux, vaincu par la lumière de Dieu. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Semblable au brigand sur la croix, nous devons dire au Seigneur un jour, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je suis si misérable. Ainsi nous découvrons, par l'amour de Dieu que nous révèle l'Évangile, qu'il vaut la peine de vivre, que nous sommes des créatures merveilleuses et épouvantables, mais que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu veut réaliser en chacun de nous quelque chose d'extraordinaire. Il veut reproduire en nous l'image de Jésus. Et nous découvrons qu'il vaut certes la peine de vivre avec lui, mais que la vie sans lui est un horrible gaspillage. Mais j'aimerais insister ce matin sur un des aspects de l'amour qui devrait nous aider à mieux réaliser combien nous avons été aimés. L'amour vrai a de multiples caractéristiques. Vous comprenez bien que nous ne parlons pas de l'amour dont il est si souvent question actuellement au cinéma, et qui n'est que la satisfaction d'appétit charnel. Nous parlons d'autre chose, nous parlons de l'amour qui se donne. Et cet amour vrai possède une caractéristique qui me paraît très importante. Elle se retrouve toujours dans toutes les expériences humaines où se révèle l'amour. Et sans elle, l'amour n'est qu'un mot dérisoire et vide de sens. La Bible est un livre très précieux. Elle nous parle d'hommes et de femmes qui ont vécu des expériences très semblables aux nôtres. Et je pense à un homme qui s'appelait Jacob. Ou un homme comme beaucoup d'entre nous. Cet homme avait des enfants, et en particulier un fils qui s'appelait Joseph. Et il aimait Joseph. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il lui a offert une tunique extraordinaire, la plus belle tunique de la région. J'imagine qu'il l'avait faite faire exprès pour Joseph. Une tunique de plusieurs couleurs, une tunique magnifique, magnifique. Parce qu'il aimait Joseph. Et quand on aime, mes amis, on donne. Peut-être aujourd'hui, dirions-nous, ce père de famille, il a offert à son fils qu'il aimait un vélo à 18 vitesses, 3 plateaux à l'avant, 6 roues dentées à l'arrière, 18 vitesses. Vous vous rendez compte? Parce qu'il aime son fils. Il lui donne quelque chose de beau. Je pense à, justement à ce Joseph. Joseph qui un jour, lorsqu'il était en Égypte, a reçu ses frères, les a invités à manger. Et parmi ses frères se trouvait Benjamin, le fils de sa propre mère, fils de Rachel, comme lui. Et il les a fait servir. Et vous savez ce qu'il y avait dans l'assiette de Benjamin? La Bible nous dit qu'il y avait 5 fois plus de nourriture que dans l'assiette des autres. Parce qu'il aimait Benjamin. Plus que tous les autres. 5 fois plus de nourriture. Il va avoir un gros estomac, mais j'imagine qu'il n'a pas tout mangé. Mais Joseph aimait Benjamin, son propre frère. Et je pense à une autre histoire. L'histoire d'un homme qui s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes. Alors ça se fait plus heureusement. Il avait 2 femmes. Et il y en avait une qui n'avait pas d'enfant. Qui s'appelait Anne. Et elle se désolait de ne pas avoir d'enfant. Elle aurait bien voulu en avoir. Et tous les ans, il montait pour adorer Dieu, où se trouvait l'arche de l'Alliance. Et Elkana allait avec ses 2 femmes, et lorsque le moment du repas était là, il lui donnait 2 fois plus de nourriture qu'à l'autre, parce qu'il l'aimait, et qu'elle n'avait pas d'enfant. Il lui donnait, la Bible nous dit, une portion double, parce qu'il l'aimait. Mes amis, il y a de l'abondance dans l'amour, il y a de la générosité dans l'amour. Et on ne peut pas aimer vraiment si l'on n'est pas généreux. Et si l'on aime, on est généreux. Et ceci, nous devons le réaliser dans nos rapports personnels. Je t'aime. Ce mot qu'on entend si souvent. Mais s'il n'y a pas de générosité, eh bien il n'y a pas d'amour. Qu'en est-il de Dieu, mes amis? Qu'en est-il de Dieu? Mais je ne devrais même pas poser la question. J'ai presque honte de la poser. Dieu nous aime-t-il? Un simple regard sur la Bible, et je pense aussi sur l'expérience de plusieurs parmi nous, devrait nous amener à ne plus jamais poser cette question. Jamais poser cette question. Dieu nous aime-t-il? Dès l'origine, la Bible nous révèle que Dieu a couvert le péché d'Adam et Ève. Il leur a fait des habits de peau et il les en a couverts pour couvrir la honte de leur nudité, leur péché. Dès l'origine, Dieu a annoncé à Adam et Ève la délivrance qu'il allait un jour accorder. Il a annoncé cette postérité de la femme qui allait un jour vaincre le serpent. Dans le sein du peuple d'Israël, Dieu a manifesté des milliers de fois ses bontés. Le psalmiste pouvait dire « Chaque matin, tu renouvelles tes bontés. » Mais pas seulement pour Israël, mais aussi pour Ninive, la ville assyrienne. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas, que Dieu envoyait pour annoncer à Ninive son jugement, et en même temps sa grâce, parce qu'il était prêt à lui pardonner. Dieu s'est occupé des Israélites, c'est vrai. Mais il s'est aussi occupé de Naaman, le général syrien lépreux, et il l'a guéri. Il s'est occupé de la Sidonienne, cette veuve de Sarepta, et il l'a nourrie. Dieu s'est occupé de David, le roi selon son cœur, mais il s'est aussi occupé de Nebuchadnezzar. Lisez Daniel, le prophète Daniel. Dieu s'est occupé de Salomon, d'Ézéchias, mais il s'est aussi occupé de Pharaon. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu aime les hommes. Et l'amour de Dieu est un amour immense. Et malgré les terribles désobéissances des uns et des autres, malgré vos désobéissances, malgré nos désobéissances, Dieu nous aime d'un amour immense. Et un jour, au temps marqué, au carrefour du temps, Dieu est devenu un homme. Dans ce tout petit pays qui est situé au carrefour de 3 continents, la meilleure place possible pour que l'évangile se répande. Jésus est né. Dieu a mis le comble à son amour. Il est devenu un d'entre nous. Et la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se confie en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens au chapitre 3 nous parle des richesses incompréhensibles de Christ. Il nous parle, nous l'avons lu tout à l'heure, d'un amour qui surpasse toute connaissance. Un amour que nous ne pouvons même pas décrire. Un amour que nous pouvons vivre, mes amis. Et c'est ça l'important. L'évangile de Jean nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous rendez-vous compte de ce que ça représente? Du miracle incroyable que représente le fait de prendre des créatures comme nous, pécheresses comme nous le sommes, et d'en faire ses propres enfants. La Bible nous dit que nous sommes, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Vous savez ce qu'était Adam dans le jardin d'Éden? Adam était le gérant de la création de Dieu. Et la Bible nous dit que nous allons devenir propriétaires. Marc, propriétaire. C'est quelque chose. Propriétaire des choses de Dieu. Oui, mes amis, c'est ainsi que la Bible parle. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Un jour, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec Christ. Oh mes amis, l'amour de Dieu est quelque chose de fantastique. Moi qui l'ai bafoué si souvent, moi qui ai renié son nom si souvent, moi qui lui ai pas rendu gloire si souvent, un jour, sa parole me l'atteste, je régnerai avec son Fils bien-aimé. Quelle merveille! Et alors, mes amis, il y a quand même une question qui se pose. Si tout cela est vrai, pourquoi nos hôpitaux sont-ils pleins? Pourquoi nos corps souffrent-ils? Pourquoi nos yeux sont-ils si souvent pleins de larmes? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Vous avez écouté tout à l'heure la parole de ce jeune homme. C'est bon, ami ancien, de temps en temps d'écouter les jeunes. Et celui-là s'appelait Élihu. Et il y a de bonnes choses dans ce qu'Élihu a dit à Job et à ses amis, pourtant beaucoup plus âgés que lui. Je relis quelques passages dans ce livre de Job, chapitre 34, verset 33. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Cette parole est terrible. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Nous posons des questions, Seigneur. Ah, nous en posons. Mais mes amis, qui dira tout ce que Dieu nous a épargné? Qui dira les accidents qu'il nous a évités? Qui le dira? Nous le saurons un jour, dans son ciel. Mais comme nous devrions mettre notre main sur notre bouche, devant le Seigneur, s'il est une chose dont nous ne devons jamais douter, mesdames, même dans la souffrance, même dans la solitude, même dans la maladie, c'est de l'amour de Dieu. Oh, mes amis, ne doutons jamais, au grand jamais, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est à la mesure de Dieu. Il est sans mesure. S'il est une certitude qui doit brûler nos cœurs, c'est celle-là. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour vous, chacun de vous. Et puis, mes amis, ne devrions-nous pas simplement nous arrêter maintenant pour regarder la croix où le Fils de Dieu est mort, par amour. Lui qui n'avait jamais commis le péché, il est rentré, il s'est chargé de notre péché et il a subi la condamnation à notre place. Comment pourrions dire que Dieu ne nous aime pas? Dieu nous aime et il l'a montré. Et Dieu nous aime et il le montre. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui. Alors si nous savons que Dieu nous aime et que son amour est sans mesure, alors mes amis, notre vie a une autre valeur. Et je pense à ces hommes, à ces femmes tourmentées dans leur corps, qui ont été des témoins de l'amour de Dieu. Je pense à l'expérience du père de M. Jules-Marcel Nicole, qui a dit un jour à son épouse, « Dieu a voulu que je le serve aveugle. » Aveugle de 35 à 90 ans, et plus, je crois. Aimé de Dieu, aveugle. Je pense à Adèle Pelas, qui, si mes souvenirs sont bons, était malade, paralysée. Aimé de Dieu et paralysée. Et sur son lit de souffrance, elle est un instrument dans les mains de Dieu pour gagner des jeunes à Jésus-Christ. Vous souffrez, mais vous êtes aimé de Dieu. Mes amis, qui pourra mesurer l'amour de Dieu? Et je pense encore à ce passage que nous lisions tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 3, où l'apôtre souhaitait que les chrétiens d'Éphèse puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et comme je voudrais, mes amis, que nous tous qui sommes ici, nous puissions comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur. Tous les hommes aimés de Dieu. Quelle est la longueur. Tous les temps, depuis le commencement de l'histoire, Dieu aime. Quelle est la profondeur. Toutes les situations, Dieu aime dans toutes nos situations. Et quelle est la hauteur? Il est prêt à faire de nous tous ses fils. Aussi nous pouvions comprendre, avec tous les saints, l'immensité de l'amour de Dieu. Alors mes amis, sur nos visages, il y aurait plus de sourires que de larmes. Et s'il y avait des larmes, elles seraient pour les autres, et pas pour nous. Et j'aimerais, en terminant, vous raconter une histoire. L'histoire de deux jeunes gens qui avaient compris la grandeur immense de l'amour de Dieu, et qui avaient compris aussi qu'on n'est pas aimé comme cela, sans rendre l'amour dont Dieu nous aime. Écoutez seulement et dites-moi si vous auriez été prêt à faire ce qu'ils ont fait. Et vous savez pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait par amour. Pour celui qui les avait tellement aimés. Un Britannique possédait 2 à 3 000 esclaves sur une île des Antilles. Il avait dit, aucun prédicateur, aucun missionnaire ne doit venir s'établir sur cette île. S'il y fait naufrage, gardez-le dans une maison séparée jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais jamais il ne doit parler de Dieu à quiconque d'entre nous. Je ne crois pas à tous ces non-sens. 3 000 esclaves des jungles d'Afrique amenés ici pour vivre et mourir, sans entendre parler de Christ. Deux jeunes chrétiens moraves l'apprirent. ils se vendirent aux planteurs et utilisèrent l'argent qu'ils en reçurent pour payer leur billet de passage vers cette destination. Ils ne voulaient pas payer davantage pour eux, enfin ce planteur ne voulait pas payer davantage pour eux qu'il ne le faisait pour l'un quelconque de ses esclaves. Il ne voulait même pas les transporter. Ils partirent donc dans leur prime jeunesse pour ne jamais revenir. Ce n'était certes pas pour un terme de 4 années. Ils se vendirent délibérément pour être des esclaves jusqu'à la fin de leur vie, afin que, comme esclaves, puissent être des enfants de Dieu au milieu de ceux qui ne l'étaient pas. Comme le navire quittait la jetée à l'embouchure de la rivière Homborg pour entrer dans la mer du Nord emporté par la marée, quelques chrétiens d'Ernhout arrivèrent pour saluer ces deux jeunes. L'un des garçons, le bras passé dans celui de son compagnon, leva sa main et cria les derniers mots qui furent entendus de ces jeunes héros. Écoutez seulement cette dernière parole que ses amis ont entendue. Que l'agneau qui fut immolé reçoive la récompense de ses souffrances. J'ai envie de me mettre à genoux pour saluer ses frères. Mais je sais comme eux, exactement comme eux, que Dieu m'a aimé, immensément aimé, et que je dois répondre à son amour par le mien. Que le Seigneur nous aide à réaliser la puissance, l'immensité de son amour et à y répondre, même s'ils nous demandent cela, parce que Dieu le leur avait demandé. Et je sais alors, mes amis, que notre vie sera pleine, riche, que notre vie sera vécue à sa gloire. Mais est-ce que nous sommes prêts au sacrifice, par amour, comme le Seigneur a été prêt au suprême sacrifice par amour?